RCF.
Chers amis auditeurs, bonjour et merci de nous retrouver aujourd'hui dans notre émission À vos passions. Eh bien, nous embarquons presque, puisque nous sommes avec André Brunner, à qui nous devons le phare du bout du monde. Bonjour.
Bonjour.
André Brunner, tous les Rochelais connaissent le phare du bout du monde par la réplique que nous en avons ici à La Rochelle, comme une cabane hexagonale qui trône sur l'eau. Mais son histoire commence par la vôtre, André. Comment êtes-vous entré dans la vie? Déjà, dites-nous, est-ce que vous êtes originaire de La Rochelle?
Non, moi je suis né à Reims et pour moi la mer, j'ai découverte que très tard. Le premier voyage où j'ai découvert la mer, c'est je suis parti de Reims en mobylette jusqu'au Tréport. C'est-à-dire, je ne sais pas, ça faisait 350 km. Et voilà, j'ai découvert ce monde que je ne connaissais pas du tout. Alors, j'étais un peu déçu parce que, pour moi, les plages étaient du sable. Et au Tréport, c'est que des galets.
On en a aussi à La Rochelle, remarquez.
Ouais,
hein.
Ouais,
est-ce que vous êtes venu à La Rochelle?
Moi, je suis venu parce que j'ai fait mon service militaire en Guyane. À une époque où on était obligé de faire son service militaire, j'ai essayé de me faire réformer. Mais impossible. Donc j'ai fini en Guyane. Et la Guyane, j'ai rencontré des gens qui faisaient du bateau. Et tout le monde parlait de La Rochelle en disant « Ah, c'est une super ville ». Et donc, en revenant, je n'avais pas envie de retourner à Reims et je suis venu à La Rochelle.
Mais tant mieux pour nous. Alors, l'histoire de ce phare, c'est celle de toute une équipe et d'un rêve auquel vous avez donné réalité. On va y venir. Et pour cela, il fallait avoir vraiment une passion énorme. Qu'est-ce qui, dans votre éducation ou vos premières activités, qu'est-ce qui vous a mené vers cette passion?
Ce qui m'a amené là, c'est la liberté. Depuis tout petit, je sais pas, on était quatre dans la famille, j'étais le seul comme ça, mais j'avais toujours ce besoin d'évasion. Et comme je vous disais avant, à 14 ans, je partais en mobylette sur 350 km. Soit j'allais sur le bord de mer, soit j'allais en montagne faire du ski en partant en mobylette. On mettait des journaux en dessous de nos vêtements pour protéger du froid. Et voilà, on partait, on mettait une journée pour faire 350 km. Mais voilà, c'était cette liberté. Et cette liberté, elle m'a toujours accompagné dans tout ce que j'ai fait. Et après, quand je suis arrivé à La Rochelle, après mon service militaire, j'ai rencontré des gens qui construisaient un bateau pour faire le tour du monde. Voilà, je suis parti avec eux jusqu'aux Antilles. Après, je suis revenu à La Rochelle, j'ai trouvé un boulot à la Serrère, au club nautique. Et c'est là qu'en fait, a commencé mon approche avec la mer.
C'est là que vous avez réalisé que vous aviez quelque chose à faire avec la mer. J'imagine que vous étiez le petit garçon qui lisait Jules Verne, alors.
Eh ben, oui, un petit peu Jules Verne, plus que ça. Mais je me souviens, un livre, quand j'étais en CM2, et le vendredi après-midi, avant la fin de l'école, on nous avait lu le Vieux et la mer. Et voilà, ça m'avait... Ça m'avait transporté.
Ah,
et
oui,
ce livre-là, il m'a toujours habité, en fait.
Oui, ça, je vous comprends. Ceux qui ont travaillé avec vous ont dit qu'ils avaient eu plein de raisons d'abandonner, mais vous, jamais, jamais. Est-ce que votre force, celle de bouger des montagnes, est-ce qu'elle est le fruit de la passion?
Ben, oui, et puis après, c'est aussi... je sais pas, c'est dans ma caractère. J'ai fait beaucoup de sport aussi. Sur des longues distances, c'est-à-dire comme le 3 mestiples, 5000 mètres, 10 000 mètres. Et donc, c'est il y a ce défi hein, d'aller au bout, de se faire mal, de pouvoir courir contre le temps, parce que je l'ai fait à un certain niveau où je courais quand même pour gagner les secondes. Et puis après, dans la vie, après, j'ai un peu la même démarche. C'est-à-dire que quand je me suis mis un défi dans la tête, j'aime bien aller au bout, quoi.
Oui, ça aide. Alors, le sens du défi, l'esprit d'aventure. Est-ce que ce projet fou de construction du phare, est-ce qu'il n'a pas été motivé chez vous aussi par l'instinct du bâtisseur?
Oui, mais surtout, c'est que je suis devenu à partir de 20 ans, un homme qui a commencé à travailler avec la mer. C'est-à-dire que je fais partie de l'épopée des Charentes-Maritimes, quand tout le département a construit des catamarans pour comme vitrine du département. Après, j'ai incorporé l'équipe de Philippe Poupon sur les multicoques avec le Fleury Michon. Et là, j'ai fait 10 ans de courses hauturières sur ces gros catamarans. Et là, c'était pour moi une grande découverte de la mer, autrement que faire des balades en plaisance. Quoi.
Oui, et puis autrement que dans les livres, voilà. C'était l'école de la mer. Alors reprenons l'histoire à ses débuts. Tout commence en 1884 avec une expédition en Argentine qui dépose des bagnards sur l'île des États au Cap Horn. Le premier phare est construit et un siècle plus tard, en 1993, vous y débarquez. Que se passe-t-il, André ?
Bah déjà, ça démarre par le... Les Argentins vont construire ce phare en 1884. Ils occupent l'île jusqu'en 1902, mais ils l'abandonnent pour des raisons climatiques, parce que c'est impossible de faire des élevages, impossible de faire de la culture. Donc ils sont dépendants des bateaux qui viennent de Buenos Aires pour les ravitailler. Mais ces bateaux-là n'arrivent pas en temps et en heure, parce qu'il y a 3000 kilomètres. Il y a souvent des tempêtes, ils sont obligés de se planquer dans un port en attendant que la tempête passe. Et les gens qui vivent sur l'île sont dépendants pour manger de ces bateaux-là. Et souvent, les bateaux arrivent avec 15 jours, 3 semaines de retard. Pendant ce temps-là, ils ne mangent pas. Alors, il y a les gardiens qui gardent ces bagnards et qui ont les mêmes conditions. Et ils commencent à se révolter en disant, nous, on n'est pas bagnards. Donc, le gouvernement décide en 1902 de rapatrier tout le monde sur Ushuaïa. L'île est abandonnée, le phare est abandonné. Et Jules Verne est au courant qu'il y a eu ce phare et il s'inspire de ce phare pour écrire son roman, Le phare du bout du monde. Et moi, un siècle après, je lis ce roman et comme je suis quelqu'un de la mer, j'ai des amis qui font du charter là-bas, sur les bateaux de croisière, là, il y a une énorme bibliothèque, sur les bateaux de course, il n'y a pas un livre pour gagner du poids. Et voilà, je tombe sur le livre de Jules Verne, je lis le livre et on part avec des amis à la recherche du phare en suivant le récit que fait Jules Verne, la description de la côte que fait Jules Verne.
Ah, c'est joli ça, c'est joli. Alors, vous y débarquez, qu'est-ce qui se passe quand vous débarquez ?
Bah, déjà, ça donne un but à un voyage. Hein. C'était l'idée, on va voir à la recherche du phare et voilà. Et puis, l'histoire se terminait là, normalement. Sauf que, à ce moment-là, je décide de descendre du bateau pour aller visiter l'intérieur de l'île et je veux rejoindre le bateau à une douzaine de kilomètres plus loin où il y a une base militaire avec 3 militaires. Et donc, on se donne rendez-vous là. Je décalque vite fait la carte sur un bout de papier. Les conditions paraissent bonnes et en fait, très rapidement, je me fais prendre dans une dépression. Et là-bas, quand les dépressions arrivent, les nuages sont quasiment au niveau du sol. En plus, je dois trouver un grand lac, mais qui n'existe plus parce que j'ai appris plus tard qu'il y a eu un effondrement de terrain et le lac s'est vidé. Et donc, je gère comme ça pendant 5 jours avant de retrouver le bateau. Entre-temps, il neige, je suis en basket, en jean.
Vous n'êtes pas mort de froid avec tout ça?
Limite, parce que le dernier jour, la dernière nuit, je me mets à tourner autour d'un arbre, il y a 1 mètre de neige, il y a une tempête de neige, il y a 200 km/h de vent, et je tourne autour de l'arbre toute la nuit pour pas dormir. Parce que je me dis, si je m'endors, ça y est, je suis foutu, je vais mourir de froid. Et le lendemain matin, j'arrive à accéder à la base militaire, et je retrouve le bateau. Mais là, et là, les derniers jours, je me disais, si je m'en sors, il faut que je revienne sur cette île parce que j'ai une revanche à prendre avec cette île.
Ah oui, là je comprends bien. Heureusement que vous avez un passé de sportif. L'année suivante, donc en 1994, vous revenez sur l'île, comme vous nous dites. Alors pourquoi là ?
Et bien là je reviens parce que je me dis, alors après le côté revanche est un peu évaporé dans ma tête, mais ce qui est né c'est encore cette liberté de me dire, voilà, je vais aller vivre 3 mois sur cette île libre. J'emmène pas de monde, j'emmène pas de livre, j'emmène rien. J'emmène un arc, parce que ça me paraissait plus en harmonie que ce que j'allais vivre pour chasser. J'emmène un filet de pêche. Une tente, en me disant, voilà, je vais traverser l'île pendant 3 mois. En fait, c'était compliqué d'avoir l'autorisation par l'armée argentine, parce qu'ils me disaient, si jamais on vous perd, vous vous perdez, vous cassez une jambe, jamais on va vous retrouver. Que va dire le gouvernement français ? On laissait partir un Français. Alors j'ai réussi à monter un dossier en disant que j'allais faire un travail pour un magazine de voile, pour le musée océanographique de La Rochelle qui existait à l'époque. Voilà, et pour
bravo, finir... bravo l'homme de communication déjà.
Et pour finir, ils m'ont donné l'autorisation, mais entre les deux, il s'est passé quasiment 1 mois, donc il ne me restait plus que 2 mois. Donc je suis parti 2 mois sur l'île.
Très bien. Alors, en 1998, vous débarquez cette fois avec 10 hommes pour reconstruire le phare. Quand est-ce qu'elle vous vient, cette envie ? Quand vous prenez la décision de reconstruire le phare ?
Alors la décision, elle vient justement quand je suis pendant ces 2 mois. Alors il faut s'imaginer quand on est tout seul sur une île, on parle aux arbres, on parle aux nuages, notre imaginaire...
Nos rêves.
est fertile. Et voilà, à un moment, je me retrouve sur les ruines du phare et je suis assis sur cette planche parce que du phare, il restait que des planches et des tôles rouillées. Parce que le phare, c'était une construction en bois, hein, que j'avais fait à l'époque. C'est pas une tour comme on a par chez nous. Parce que le phare, il était sur un promontoire rocheux de 70 mètres. Nous, on avait besoin de faire une tour. Et déjà, il était assez haut. Donc, c'était fait une cabane de 8 côtés, à peu près de 8 mètres de diamètre. Et voilà. Et la lumière sortait par des fenêtres. Ils allumaient des lampes à l'huile de phoque.
Alors, je vous coupe là 2 secondes parce qu'on se trouve justement dans votre phare du bout du monde à vous, dans votre jardin, au bout du jardin, qui est, c'est vraiment délicieux. Et il est à l'identique. Et je vois des petites fenêtres. C'était à peu près comme ça?
Non, ouais, bah, sauf que là, il fait que 4 mètres de diamètre. Ouais. L'autre, il faisait 8 mètres. Eh bien, on avait construit cette maquette-là au début quand j'ai cherché l'argent pour construire le phare. Et il fallait. Enfin, je trouvais que c'était une bonne idée de matérialiser notre rêve en construisant la maquette du phare. C'est que les gens rentraient. On servait des petits ponches et hop, ils adhéraient. Voilà.
Ah oui, puis on s'y trouve très très bien, très à l'aise. Alors donc, vous constituez une équipe pour la construction du phare. Chacun s'est engagé en bénévole, en aventurier, et sans savoir ce qu'il attendait au bout du monde. Ben, j'imagine que c'est pas très facile de recruter une équipe de passionnés autant que vous.
Oui, mais alors, j'ai pas terminé mon histoire avant, parce qu'en fait, j'étais assis sur mon tas de planches,
oui.
Et voilà, je suis assis le soir, la nuit tombe, et d'un seul coup, je m'imagine que je suis gardien de phare, que j'allume cette petite lumière pour guider les bateaux, et ça y est, l'idée, elle est dans ma tête, on va revenir pour construire le phare du bout du monde. Et quand je reviens en France, ben voilà, je vais voir les copains, je leur dis, waouh, j'ai une super idée, les gars, on va aller reconstruire un phare sur une île déserte là-bas, à côté du Cap Horn. Tout le monde trouve ça génial. La presse s'empare du projet, soutient en disant que c'est un rêve fabuleux. Et voilà, et on cherche un financement. Et en 98, on part. Alors l'idée, c'était de monter l'expédition, donc ça se faisait au temps du siècle de lumière, à une époque où il n'y avait pas la caméra, la télévision, l'appareil photo. Dans les expés, il y avait toujours des illustrateurs, des peintres, des compositeurs de musique qui ramenaient les témoignages de ce qu'ils avaient rencontré par leur art. Donc je me suis dit, voilà, on va faire pareil. Donc j'ai emmené un peintre, qui était Gilles Laflao, un illustrateur, Gilbert Morel, un compositeur de musique, Pascal Ducourtiou, un photographe, Daniel Noureau, et puis après, Éric Lelorin, Yann Kammerbeck, pour la partie bois, et Guillaume Mérigeau et Jean Sécheresse pour le zinc. Et voilà, c'est toute cette équipe est partie en 98, début 98, pour aller reconstruire le phare sur l'île des Étangs.
Voilà, toute l'équipe de un petit peu fêlée hein, quand même est partie. La construction d'un phare au bout de la Terre de Feu, c'est sûr, c'est un vrai défi parce que le climat du Cap Horn, il est redoutable. On l'a vu dans le film qu'on a pu voir pendant le festival du film d'aventure. La pluie, le vent, ça ne vous a pas fait peur?
Non, non, non. Bah moi, j'y avais vécu 2 mois tout seul, sans rien à manger parce que ça a été compliqué.
Mais que les autres, ça leur fasse peur.
Ah, bah les autres, ils savaient pas trop où ils allaient. Je leur avais dit, de toute façon, parce qu'on de la plage au phare, on avait apporté tout le matériel, hein, les 20 tonnes de bois, et je leur avais dit que ça faisait 1 kilomètre, et tout le monde disait, c'est le kilomètre Brunner. Hein. C'était plutôt 1,5 km qu'un kilomètre.
Et puis ça montait.
Ouais, ça montait, ouais, ouais.
Voilà. Quelles ont été les plus grandes difficultés? Est-ce que vous avez dû contourner des obstacles?
Le plus long, ça a été d'avoir l'autorisation en Argentine. C'est pas qu'ils étaient contre la reconstruction du phare, mais ça a mis du temps. Pour finir, il y a 5 ministères qui ont signé, parce que on pouvait pas aller reconstruire le phare sans que ça soit décrété d'intérêt national. Donc il y a le ministère des Affaires étrangères, la culture, l'éducation nationale, la défense, la Chambre des députés, le Sénat, les monuments historiques. Qu'ont donc signé un décret nous disant que la reconstruction qu'on allait faire était d'intérêt national. Alors une fois que tout ça a été rassemblé, ben, on a pu partir pour aller le reconstruire.
Oui, les difficultés humaines et climatiques, c'était pas suffisant, mais les difficultés administratives. Je vous propose maintenant une pause musicale dans notre navigation vers le bout du monde avec vous, André. Quelle musique choisissez-vous?
Alors j'ai choisi une musique de Mercedes Sosa, qui est un personnage...
Gracias a la vida.
Oui, ouais. non, c'est Viras Promesas.
On écoute. Cada febrero vuelve a renacer de la ceniza de la soledad. Tu apasionado amor, tu luz espiritual, enloquecido en bruja carnaval.
ansias de libertad queman mi corazón, ya vuelve a enamorarme el carnaval. Para febrero nace una ilusión, que allá la Rioja flores de amistad. En la yarina de la antigua rejuveneces por el beso que te da tu carnaval. ¡Viva la Rioja, carajo! Cada febrero vuelve a despertar la copla que dormía atrás del libertad, quema mi corazón, ya vuelve a enamorarme el carnaval. Para febrero nace una ilusión, que allá la Rioja flores de amistad. ¡Hey! De la
Bienvenue aux auditeurs de RCF qui nous rejoignent dans notre émission À vos passions. Nous sommes avec André Brunner qui nous fait vivre sa passion pour le phare du bout du monde. On le voit, cette histoire, c'est avant tout une aventure humaine. C'était un élément déterminant pour vous, André ?
Oui, déjà, c'était important de... De toute façon, premièrement, j'aurais pas pu le faire tout seul, le reconstruire. Donc non, c'était important d'emmener des gens dans l'histoire parce que déjà, il y a le partage. De tout ça, il y a de ces différents regards qu'il peut y avoir autour de ça. C'est pour ça que j'ai emmené un tas d'artistes pour qu'ils puissent témoigner de leur art à travers leur regard.
Oui, c'est important. Mais est-ce que justement cet élément de facteur humain, c'était quelquefois une difficulté aussi ?
Non, ça l'a jamais été. C'est, je pense que bon, je connaissais un peu les gens que j'ai emmenés, mais je pense que c'est compliqué s'il y a des égos qui ressortent dans un groupe, quoi. Et c'est là qu'il va y avoir que ça va compliquer les choses. Mais si tout le monde est là pour partager, ça, c'est tout seul, en fait.
Oh bah, j'imagine que vous les avez choisis aussi en fonction de ça. Alors, le 26 février 1998, le phare reconstruit fonctionne à nouveau. Vos sentiments en ce moment-là ?
Alors là, c'est une grande satisfaction.
C'est une grande fierté aussi.
Une grande fierté, oui, oui, absolument. Oui. Et puis, c'est chargé d'émotions parce qu'on est là à partager ce moment-là avec les gens, à les remercier, à aller au bout de son rêve. Et on a partagé ça avec plein de gens. Et c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions.
Voilà, c'est à quoi mène la passion. En janvier 2000, cette fois, c'est un deuxième phare du bout du monde qui est allumé à La Rochelle. Pour le plus grand bonheur des Rochelais, leurs lumières se répondent de part et d'autre de l'Atlantique. C'est un beau symbole. Est-ce que c'est une réplique exacte ?
Oui, c'est exactement le même phare. La seule différence qu'il y a, c'est que là-bas, sur l'île des États, le phare est sorti par une fenêtre. Et à La Rochelle, la lumière est dans la boule. Elle est encastrée dans la boule qui est au-dessus du toit.
D'accord. Est-ce que ce projet a tout de suite été bien accueilli ?
Ben, à La Rochelle, oui, c'est quand je suis revenu, je voulais entraîner La Rochelle dans l'histoire, parce que La Rochelle, c'est une ville, c'est un port. Les bateaux sont partis de La Rochelle pour découvrir le monde. Ils sont revenus, ils ont partagé leurs découvertes avec les gens qui étaient restés là. Et donc, j'ai été voir Michel Crépeau, qui était le maire à l'époque, en disant, ben voilà, il faut absolument associer La Rochelle à ce projet. C'est la dernière grande aventure du siècle. Il faut que La Rochelle soit là. Et on a une petite idée. À la place de l'avant, le phare qu'il y a aujourd'hui, il y avait une perche. C'est-à-dire un poteau qui était peint en blanc, qui délimitait le fond. Il n'y avait pas de lumière de nuit. il y avait souvent un bateau qui se mettait sur les rochers qui étaient dessous. Et voilà, on s'est dit, bah, pourquoi on ne mettrait pas le phare, la réplique du phare ici à La Rochelle, sur pilotis. Et comme toutes les villes à l'époque, en 1998, cherchaient un projet pour l'an 2000, voilà, on se dit, bah, on va l'allumer le 1er janvier 2000 avec un message de partage, de découverte, de tolérance. Et Michel Crépeau a dit, banco, on y va.
Ouais, je le comprends. Ouais. En somme, il n'est pas seulement beau, il est très utile.
Mais c'est important qu'il ait dit oui, parce que on aurait pu tomber sur un autre maire qui se serait dit bon, non, ça n'a pas trop d'intérêt. Lui, il avait tout de suite senti que ça aurait un intérêt pour la ville que ce phare existe. Et sans des gens comme ça, ben voilà, ça n'existe pas en fait.
Oui, c'était grâce à lui aussi. Ouais. Alors, une nouvelle expédition en Patagonie en mars 2019, parce que la lumière ne fonctionne plus. Comment, à nouveau, êtes-vous passé de l'envie à son exécution?
Bah, c'est-à-dire qu'on sait un petit peu, parce que dans le monde de la mer, dans les tours du mondiste, ceux qui font le tour du monde, le phare maintenant sur les deux états, c'est devenu une légende. Et tous les gens qui passent par là s'arrêtent. Il n'y en a pas un qui passe à côté sans s'arrêter. On tous visitait le phare. Et on savait que la lumière ne marchait pas depuis un moment, puisque les bateaux passaient. Et moi maintenant, avec le téléphone par satellite, souvent j'ai des appels à la maison. Les gens sont dans le phare. Mais, ah yo, je suis dans le phare. Il est en super bêta. Voilà. Donc je suis au courant toujours d'un peu de l'état du phare. Et donc on a monté expédition pour aller voir un peu dans l'état où il était, pour m'en rendre compte moi-même, et aussi proposer, parce qu'aujourd'hui le phare en Argentine, il est géré par l'armée argentine, le gouvernateur de feu et les parcs nationaux. Et voilà, je voulais leur proposer que l'association finance les réparations de la lumière, parce qu'en gros c'était un budget de 12 à 15 000 euros de tout changer. Les Argentins ont d'autres priorités aujourd'hui que de dépenser 15 000 euros dans une lumière qui leur sert à rien. Donc on leur a dit, voilà, comme on veut faire un événement en 2020 à La Rochelle, ça serait bien que les deux lumières marchent, et on vous propose de venir réparer gracieusement la lumière. Voilà. Et donc ils ont dit, ah oui, génial. Donc on a monté cette expédition en mars pour aller réparer la lumière là-bas.
Ça, c'est chouette. Et comment il se porte aujourd'hui, votre phare?
Ah bah alors, il n'a pas bougé. De toute façon, il est construit pour résister à 350 km/h de vent.
Ah oui, ça va aller. Voilà, André Brunner, vous ne vous êtes pas contenté de vivre votre passion, vous avez voulu la partager. Le phare du bout du monde amène le rêve à l'école. Comment?
Alors, il l'amène à l'école. C'est-à-dire que j'ai signé une convention avec la communauté de l'agglomération. J'ai fait une conférence devant tous les maires, les 28 maires. Et je leur ai proposé d'intervenir dans les classes primaires des 28 communes. Ils ont tous accepté la proposition, donc ça a été voté. Et donc là, j'ai commencé à démarrer là depuis une semaine, où je vais dans les classes et je dis aux enfants, ben voilà, aujourd'hui, on va aller 2 mois sur une île déserte, comment vous faites pour survivre? Et puis après, je leur raconte l'histoire du phare du bout du monde. Et en finale, je leur dis, ben voilà, si vous alliez vous installez sur une île déserte aujourd'hui, quelle société vous aimeriez créer? Qu'est-ce que vous voudriez changer dans celle que vous vivez aujourd'hui? Et comment la transformer pour en faire une société à votre image, quoi.
Oh, formidable, quelle école! Vous allez faire des heureux, hein, je crois. Le phare du bout du monde a 20 ans, donc maintenant. Comment va-t-on célébrer cet anniversaire?
Alors, en parallèle au projet avec les enfants, parce que c'est toujours pareil. Dans l'idée de célébrer les 20 ans du phare, c'était pas l'idée de faire un anniversaire, dire on fait 20 ans, mais c'est surtout que j'avais envie de partager ça avec plein de gens. Et quand on a été l'année dernière dans le phare, enfin en 2018 dans le phare là-bas, on avait laissé un livre d'or, et dessus il y avait des textes magnifiques que les gens laissent quand ils passent en bateau. Ils écrivent sur le livre d'or. Et on s'est dit avec Claire, mon épouse, que ça serait génial de lancer ça à La Rochelle, donc on a lancé un projet qui s'appelle Gardien de phare, dans lequel on propose aux gens de venir passer 24 heures, mais en échange, ils doivent nous restituer leur ressenti par le moyen d'expression. Soit ils peignent, ils écrivent, ils sculptent, ils composent. Et voilà, donc ce projet-là, on l'a commencé le 18 octobre, jusqu'en septembre 2020, jusqu'au moment du Grand Pavois. Et on fait ça tous les jours. En gros, on va emmener 300 gardiens dans le phare. Alors on a déjà commencé, et c'est magnifique, parce que là, on doit être au 50e aujourd'hui, ou 51e. Et à chaque fois qu'on va les chercher, il y a les étoiles dans les yeux. C'est un bonheur.
Vous êtes un semeur d'étoiles, en quelque sorte. Et en plus, c'est écrit, ça s'exprime, ces étoiles.
Et donc, à la fin, pour revenir à la fin, donc en septembre, alors en fait, en octobre, pendant le Grand Pavois, parce que cette année, il est tard, le Grand Pavois, il est fin septembre, début octobre, on voudrait, sur la plage, que les artistes qui ont participé à l'expédition, est de nouveau et il s'exprime avec tout un programme. Alors on va essayer de rejouer la symphonie, on va faire des spectacles avec des dessins sur du verre en même temps que quelqu'un conte une histoire. Et on va faire des sculptures sur la plage. Voilà, il y a tout un programme qui est en train de s'installer, qui n'est pas encore bien défini, mais sur lequel j'espère que... Ben, on cherche encore des partenaires privés pour ça, et j'espère aussi que les institutionnels comme le département, la région et la ville vont nous accompagner sur cet événement.
Voilà, ben on espère bien aussi. Comment peut-on se tenir au courant? Est-ce que vous avez une newsletter, un site?
Oui, on a un site. Alors, le site, c'est www.lepharedubouxdumonde.com.
Alors, pour les auditeurs qui, après vous avoir écouté, j'en doute pas, mourront d'envie d'aller voir ce phare, est-ce qu'ils peuvent s'y rendre?
Non.
En dehors d'être gardien, non?
Non, en dehors d'être gardien, non. Non, ça c'est une... c'est la mairie qui a accepté, hein, c'était pas encore évident. Il a encore aussi fallu qu'il y ait une volonté du maire pour supporter ce projet, qui était pas au risque zéro, quoi, si jamais il y avait un accident ou je sais pas. Donc il a fallu qu'on ait l'accord de la mairie, parce qu'en fait le phare appartient à la mairie aujourd'hui. Il est sur un domaine public, mais il a été construit par la mairie. Et en fait c'est la capitainerie du port de Plaisance qui le gère. Et voilà, donc ils nous prêtent le phare sur un an, mais c'est exceptionnel. Voilà, juste pour l'opération en fait.
C'est une belle exception. Vivre sa passion, André Brunner, ça fait bouger beaucoup de choses. Est-ce que ces années que vous avez consacrées au phare du bout du monde ont modifié votre vie et votre regard sur le monde?
Oui, ça m'a fait grandir, c'est sûr. Ça m'a fait grandir dans le sens aussi... Une expédition, celle que j'ai fait tout seul pendant 2 mois sur l'île, elle m'a beaucoup travaillé en me disant que il nous fallait pas grand chose pour vivre en fait aujourd'hui. Et on s'entoure de plein de futilités qui servent à rien, qui nous prennent la tête pour rien en fait.
Oui, c'est un message très utile aujourd'hui. André Brunner, j'aimerais terminer notre rencontre pour mieux vous connaître sur un clin d'œil complice. Je vais oser 3 questions plus personnelles qui appellent des réponses rapides. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans votre histoire?
Rien. Rien.
Génial.
Parce que c'est comme une destinée, je sais pas. Hein, c'est un jour, je suis parti chercher le phare suite à une lecture. De là, je me suis perdu. De me perdre, je me suis dit que j'allais revenir. Quand je suis revenu, est née l'histoire de venir allumer cette lumière. Je suis rentré à La Rochelle, j'ai réussi à entraîner la ville dans l'histoire. Et 20 ans après, je me retrouve encore là avec cette histoire.
Ça coule de source.
À emmener des gens au phare autour d'un projet qui s'appelle Gardien de phare et de faire un truc avec les enfants. Voilà, c'est génial. J'ai l'impression que comme si l'histoire était écrite avant, je ne sais pas.
Alors, dans l'avenir, peut-être une baguette magique. Qu'est-ce que vous en faites?
Avec une baguette magique? Je ne sais pas. Avec une baguette magique, je ne change rien de toute façon. Si pour un projet futur, ouais, aller sur la Lune peut-être, un truc comme ça.
Ah
ouais.
Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut une baguette magique, vous savez.
Ouais.
Et si vous étiez quelqu'un ou quelque chose en rapport avec votre passion, qui seriez-vous?
Ah, je serais toujours la liberté, je serais un oiseau qui là, se pose sur l'eau, un albatros qui voyage, qui fait le tour du monde comme ça en planant, qui se pose, qui repart.
Oui, je vous vois très bien, Batros. C'est beau en plus. André Brunner, merci de nous avoir embarqués pour votre passion, de nous avoir si bien montré qu'avoir une passion, c'est bien, que la vivre, c'est formidable. Au revoir et à bientôt pour d'autres passions. D'ici là, je vous souhaite 1000 envies, que battent nos cœurs et que vivent nos passions.